Bonsoir, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que je vous présente un monument montois comme Michel de Remacker. Je vais quand même dire quelques mots au cas où il y aurait des gens qui ne sont pas vraiment de la région. Sinon, je vais vous rappeler qu'il est historien de l'art, qu'il avait déjà fait son mémoire sur la sculpture en Hainaut occidental au XVe et XVIe siècle. Donc, c'est vraiment une période qui l'intéresse tout particulièrement. Il avait monté en 85 l'exposition sur Jacques Dubreuil dans l'Europalia sur l'Espagne. Il a organisé pendant une dizaine d'années les expositions à Mons pour la province, et depuis une bonne quinzaine d'années, il est directeur du BAM et des musées communaux. Il va nous parler évidemment de l'histoire de l'art dans les pays du Nord à la Renaissance. Je lui laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Contrairement aux personnes qui vous ont parlé avant moi de la Renaissance, je ne suis pas professeur, je n'ai pas l'habitude de tenir des discours, et je ne suis pas homme de radio non plus. Donc, j'ai un rapport au langage peut-être un peu plus difficile que ces personnes qui m'ont précédé, mais par contre, j'aime beaucoup les images, et donc je vais vous projeter pas mal d'images. C'est la base de mon propos d'aujourd'hui. Alors, quand Anne m'a proposé, il y a plus d'un an maintenant, de prendre la parole sur la Renaissance au nord des Alpes, je me suis dit oui, avec mes petites connaissances sur Jacques Dubreuil, etc., je me suis dit, ça va aller assez facilement. Et puis, en préparant, je suis vite tombé sur un premier écueil. C'est que quand on parle de Renaissance dans l'histoire culturelle européenne, on parle de cet extraordinaire mouvement intellectuel et artistique en Italie, du XVe et XVIe siècle. Tout le monde s'accorde pour reconnaître qu'au nord des Alpes et en Flandre, particulièrement dans les Pays-Bas, il y a eu un essor parallèle, mais on refuse de l'appeler Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'il reste presque pour tout le monde évident que la Renaissance doit se baser sur une redécouverte de l'Antiquité. Or, il est clair que dans les Pays-Bas, il n'y a pas eu de redécouverte de l'Antiquité. Donc, j'avais supposé un problème, je me suis dit, de quoi vais-je parler ? Est-ce que je vais vous présenter la manière dont les formes mises au point en Italie, au Quattrocento, ont été introduites par les artistes dans nos régions. C'est un peu limiter mon propos et faire plutôt un propos sur l'italianisme plutôt que sur la Renaissance dans les Pays-Bas. Et j'en étais là dans mes recherches et dans mon questionnement, je dirais, lorsque je suis tombé sur le Nouvel Observateur de la fin 2009, le dernier numéro de 2009 du Nouvel Observateur. Alors, ça m'a questionné tout de suite. Il était une fois la Renaissance, quand s'inventait le monde d'aujourd'hui ? Si la Renaissance est une redécouverte de l'Antiquité, il faudrait croire que le monde d'aujourd'hui, en 25 siècles peut-être, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas évolué énormément. On n'a pas changé énormément, ce qui me semble étonnant. Une deuxième chose qui s'imposait, un deuxième raisonnement qui s'imposait, c'est se dire qu'on nous bassine quand même les oreilles en disant que le monde change, qu'avec Internet, la communication, etc., tout change. Et ici, on nous dit, mais non, la Renaissance avait déjà tout inventé. Ça me pose problème. Et la Renaissance, vue comme redécouverte de l'Antiquité. Ça, c'était la première question que je me suis posée. La seconde, c'est évidemment la liste. François Ier, Charles Quint, Henri VIII. Tous les trois viennent du Nord. Les artistes sont tous italiens. Léonard, Michel-Ange, Botticelli. Les humanistes, les écrivains, Montaigne, français, Ronsard, français, Érasme, hollandais, Calvin, suisse, français-suisse, Christophe Colomb, italien, mais au service de l'Espagne. De l'Espagne. Donc, voilà donc cette Renaissance qui est une découverte, une redécouverte de l'Antiquité, qui n'en était plus une, qui était au contraire quelque chose d'un peu plus large. Et j'ai donc opté pour ce point de vue, et donc je prends la Renaissance non pas comme c'est un mouvement qui a redécouvert l'Antiquité et qui s'est enrichi par cette redécouverte, mais c'est aussi un moment où il y a eu énormément de créations qui n'ont rien à voir avec l'Antiquité. Il est clair que l'imprimerie n'a rien à voir avec le monde antique. Or, l'imprimerie est sans doute une des inventions primordiales de la Renaissance, aussi bien dans la diffusion des idées que dans la propagation de ces idées. Il est clair que la lettre de change, la comptabilité en partie double, comme on l'appelle, n'a rien à voir avec l'Antiquité. Or, c'est la base du commerce, du capitalisme et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec l'Antiquité. Il est clair que la poudre et le canon a à voir peut-être avec l'Antiquité chinoise, mais certainement pas l'Antiquité gréco-latine. Et ces découvertes ont quand même influencé énormément la construction, entre autres la construction des villes, la forteresse, etc. etc. Donc, la Renaissance, telle que moi je la conçois ici, dans cet exposé, ça sera ce moment assez extraordinaire dans l'histoire européenne, entre le XVe et le XVIe siècle, qui a fait que la culture européenne s'est imposée au monde entier. En 1400, à côté de la culture européenne, il y a une culture arabe très florissante, très riche. Il y a une culture chinoise très riche, très florissante. Et puis en 1600, c'est l'Europe, ces modèles culturels européens qui s'implantent partout, y compris en Chine, y compris au Japon, y compris dans les pays arabes. Et donc en deux siècles, la culture européenne va s'imposer. Je ne porte pas de jugement. C'est un bien ou un mal, j'en sais rien. Ce n'est pas à moi de porter un jugement dessus. Mais il est certain que l'Europe a exporté en deux siècles son modèle et l'a imposé au reste du monde et que c'est encore ainsi aujourd'hui. Et c'est sans doute en ça que la Renaissance est, comme le dit le Nouvel Op ici, quand s'inventait le monde d'aujourd'hui. Donc voici le premier des rois cités, François Ier. C'est un... Oui, j'ai pardi, mais la Nouvelle Observateur, comme image, ne présentait pas un peintre italien ou un artiste italien, alors que tous les artistes cités étaient italiens, sauf celui dont il y a une figure sur la couverture, c'est Jean Clouet. Clouet qui est une famille de peintres, important aussi, vous allez voir, on connaît les Italiens qui sont Lippi, père et fils, etc., etc. On est dans la même conception sociale de l'artiste. Les artistes sont artistes de père en fils, que ce soit dans les Pays-Bas ou en Italie, c'est assez courant. Il est vrai qu'on se passait le fonds de commerce, on se passait le métier, on se passait l'atelier et on se passait le fonds de commerce, évidemment. Donc on restait en famille. Donc le premier tableau que je présente, c'est le portrait de François Ier par Jean Clouet. François Ier, c'est assez étonnant, est certainement considéré comme un des rois de la Renaissance, un prince de la Renaissance. Pourtant, ces guerres d'Italie se soldent par un échec aussi bien financier que militaire. C'est une débâcle complète. Mais François Ier d'Italie revient quand même avec, dans ses bagages, si je puis employer ce terme-là, il revient avec Serlio, il revient avec Cellini, il va inviter Léonard de Vinci. Et donc, il va introduire, quelque part, la Renaissance au nord des Alpes. Il faut savoir que François Ier était un lettré. Enfin, lettré, si on peut employer, puisque un de ses biographes écrit « Il aime se faire lire ». J'imagine qu'il savait lire quand même. Mais « Il aime se faire lire les auteurs grecs et latins, car il voit dans la redécouverte des textes anciens, ceux de l'Antiquité païenne comme ceux des premiers temps chrétiens, c'est important aussi, puisqu'on parlera de la réforme un peu après, le retour à une exigence de vérité et de noblesse morale que des siècles de ratiocination scolastique ont fini par brouiller. Il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, et jusqu'à la fin du 19e, si peut-être même au début du 20e, la culture européenne plonge ses racines dans la connaissance, dans l'étude du gréco-latine, dans les humanités gréco-latines. La connaissance des langues et des littératures antiques était bien meilleure et plus approfondie que celle des arts de l'Antiquité. N'oublions pas que la peinture Pompéi, les peintures de Pompéi ont été découvertes au XVIIIe siècle. Donc on n'avait pas de modèle de peinture antique. On a des descriptions. Et donc c'est pas toujours par la littérature, par la description, qu'on connaît les antiques. Et puis il y a eu la découverte des grotesques au début du XVIe siècle, mais c'est du décor, c'est pas encore une peinture figurative. Le mot grotesque dit bien, c'est le décor des grottes, puisque c'était enfoui sous-sol à Rome. Et on connaît les œuvres antiques par les descriptions, par la gravure, d'où l'importance de la gravure et de l'imprimerie dont je parlais tout à l'heure, par la gravure. Et toute cette diffusion d'images se fait en noir et blanc. C'est la gravure en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Donc la peinture italienne, telle qu'on l'a exportée vers nos régions, ça a été par des gravures noir et blanc. Et donc toute la notion de couleur, de coloris, vient d'une invention propre au Nord. j'attire votre attention aussi en devant ce portrait sur la qualité extraordinaire du rendu des étoffes, etc., etc. On est dans la tradition, beaucoup plus dans les Pays-Bas du Nord, enfin dans les pays du Nord, au nord des Alpes, de la miniature, et donc du travail très raffiné, très poussé sur la texture même des matières, et les miniaturistes vont augmenter leur format, si vous voulez, mais vont garder cette volonté de rendre les œuvres et la nature des choses. Le deuxième personnage important que citait le Nouvel Obs, c'est Charles Quint. Alors ici, vous avez une gravure de Charles Quint, représentant Charles Quint, gravure faite par un croate, Giulio Clovio. Elle est assez intéressante parce qu'on voit Charles Quint tenant le monde, la monde en main, entre deux colonnes où s'enroule sa devise, plus outre. Hein. Et puis, vous avez de part et d'autre de Charles Quint, les gens qu'il a vaincus, c'est-à-dire Soliman Ier, les Turcs, le pape, qui a été le pape Clément VII, qui l'a nommé empereur 3 ans après le sac de Rome, 1527, le sac de Rome par Charles Quint et ses troupes, et Charles Quint force le pape à le nommer empereur du Saint-Empire romain. Et puis François Ier, dont on vient de voir le portrait, qui a aussi été vaincu par Charles Quint. De l'autre côté, c'est les ducs de Clèves et de Saxe, et le landgrave de Hesse. Donc là, c'est le pouvoir que Charles Quint a pris en Allemagne même, d'une part après la diète d'Augsbourg et tous les problèmes de réforme et de protestantisme à ce moment-là. L'importance de la gravure ici, enfin l'importance de cette œuvre aussi, c'est, comme je l'ai dit, l'importance de la gravure. La gravure qui va vraiment être un des vecteurs les plus larges, mais qui n'était destinée non pas au grand public, uniquement aux ateliers de peintres, etc., etc. Donc la connaissance des images de l'Antiquité était très réduite à l'époque. On a l'habitude de dire que nous voyons, nous, aujourd'hui, en une journée, plus d'images que quelqu'un dans les campagnes n'envoyait durant toute sa vie. Avec les journaux, les télévisions, par image, représentation, figuration. Donc, c'est énorme quand on fait attention à ça. Troisième personnage nommé par le Nouvel Obs, Henri VIII. Henri VIII, ici peint par Holbein, à 55 ans, ou à 49 ans, pardon. Alors, c'est vraiment l'image qu'on se fait aussi d'Henri VIII. Henri VIII qui occupe, et c'est assez intéressant, c'est peint par Holbein, donc peintre aussi, famille de peintres, les Holbein, l'ancien, Hans Holbein, l'ancien, Hans Holbein, le jeune. Hein, ce sont des artistes qui sont installés à Bâle, et Hans Holbein, le jeune, va finalement s'installer à Londres, il va finir sa vie à Londres. Donc c'est, bon, on dirait presque, il emploie tout, il occupe tout le volume, toute la surface du tableau, et on dirait même qu'il pousse le cadre du tableau comme pour se donner encore un peu plus d'importance, un peu plus de place, pour pouvoir en tous les cas s'étaler encore un peu mieux. Il affirme déjà, il a une présence très affirmée, c'est clair, c'est un bon vivant, tout le monde connaît ses histoires de mariage et de divorce, mais il l'affirme, il le montre vraiment avec beaucoup de fierté, quelque part. Les deux écrivains, enfin deux des quatre écrivains, donc il y avait, je prends le schéma du Nouvel Obs, Pierre Ronsard. Alors Pierre Ronsard, c'est 16e siècle, hein, enfin 1524-1585. Pierre Ronsard qui se met à faire de la poésie le jour où il devient sourd. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire la poésie. Et il écrit sa poésie sur base de Horace et de Pindare, donc des auteurs latins qu'il connaît. Et donc, il respecte, Gilles Rémy en a parlé là, il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, je ne sais plus, il respecte les prosodies, il respecte les rythmes latins. Il ne les entend pas, mais il les respecte. C'est vraiment intellectualiser la langue, ce qui est assez étonnant. Pour illustrer cet écrivain, j'ai pris une gravure de Dürer, toujours l'importance de la gravure, de Dürer, qui représente Saint Thomas, Saint Jérôme dans son atelier, dans son scriptorium, je dirais, qui est une œuvre assez intéressante, d'une part par l'emploi, l'utilisation de la perspective par Dürer. Il y a quand même toute une maîtrise de la perspective assez extraordinaire, aussi bien dans le cartel au sol que dans les meubles, que dans les soliers du plafond. Enfin, tout est vraiment très bien dominé. Il y a un réalisme assez extraordinaire aussi, en tous les cas dans une maîtrise de la lumière. Regardez le rendu des fenêtres en cul de lampe, l'ombre dans l'embrasure des fenêtres. Il y a là toute une connaissance de la lumière, un choix, une sensibilité à la lumière assez extraordinaire. Il y a toujours ce détail du lion, ça fait partie de l'histoire de Saint Jérôme, puisqu'il a enlevé l'épine d'une patte d'un lion qui est devenu son fidèle compagnon depuis lors, et donc y compris dans son atelier. Il y a le sablier que vous voyez au fond, il y a le crâne dans la fenêtre, tout rappelle du temps qui passe, du temps qui s'écoule. Et puis vous avez cet anachronisme du chapeau de cardinal, cardinaliste, au-dessus de Saint Jérôme. Saint Jérôme n'a jamais été cardinal, mais ça remplace à la fois une auréole qu'il a déjà par ailleurs, et en plus c'est un peu aussi le côté pour montrer son rôle, sa qualité de théologien en tous les cas. Le second écrivain dont on parle, c'est Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, qui choisit ce nom-là par dérision, puisqu'il mesurait 1m56, et donc il s'appelait pas du tout de Montaigne, mais comme il était petit, il a décidé de s'appeler Montaigne. Voilà, c'est uniquement l'origine de son nom. C'est quelqu'un qui a fait une littérature extraordinaire, mais qui est sans doute à l'origine de l'écriture, de l'autofiction, comme on très à la mode pour l'instant, l'autofiction. Michel de Montaigne est le premier à faire de l'autofiction. Il se raconte, ses confessions, il se raconte. Ici, pour illustrer un peu Michel de Montaigne, j'ai choisi une œuvre d'un peintre dont on vous a peut-être parlé la semaine passée, Antonello de Messine, je ne sais pas si on vous en a parlé ou pas. C'est assez extraordinaire aussi, parce que nous sommes dans la tradition flamande, par le rendu des matières, les sources de lumière, plusieurs sources de lumière qui proviennent de différents endroits, qui éclairent cette salle. Mais nous sommes aussi dans une perspective linéaire tout à fait dominée, hein, puisque le studio de Saint-Jérôme est comme une espèce de chambre placée dans un édifice beaucoup plus grand, une espèce de cabinet, vraiment, avec toute une perspective très bien dominée, mais qui donne aussi... Il y a un jeu à la fois de peinture à l'huile. Antonello de Messine a sans doute appris la peinture à l'huile en 1450 à Rome, lorsque Roger van der Weyden va à Rome pour l'année sainte de 1450. Et il y a des chances qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là, et que c'est là que Antonello de Messine a appris cette technique de l'huile. Il la connaissait déjà, mais pas pratiquement, il la connaissait déjà, parce que, comme son nom l'indique, Antonello de Messine est sicilien, et il a été surtout étudié à la cour de Naples. Et à la cour de Naples, il y avait des collections extraordinaires de peintures françaises et flamandes. Troisième personne citée, mais c'est forcément Érasme. Le voici de nouveau peint par Holbein. Érasme, 1466, oui. On admet en général que la première vague de la culture humaniste fut italienne, mais que la seconde fut du Nord. Et de fait, les noms que je cite, que je vais continuer à citer, viennent du Nord. Et d'Érasme, sont un de ses biographes, Jacques Drillon, écrit « Érasme de Rotterdam fut peut-être le personnage le plus éclatant de la Renaissance et le plus actuel, quoique le plus négligé. Il fut européen dans sa vie et sa pensée. De fait, il voyage tout le temps, il ne s'installe nulle part. Hein, il va à Londres, il sera protégé par Henri VIII, sauf quand Henri VIII va prendre ses distances avec la papauté, et à ce moment-là, Érasme va devoir partir. Il sera à Genève, il sera en Suisse, il sera en France, il sera dans les Pays-Bas, à Rotterdam, etc. Donc il voyage énormément. Européen dans sa vie et sa pensée, c'était un pacifiste, un humaniste, un apôtre de la tolérance religieuse et un fervent défenseur de la négociation comme système. C'est déjà pas mal pour l'époque. Hein, mais ce fut l'homme de la liberté et du respect qui s'est opposé à la brutalité et le fanatisme. C'est quelqu'un, un homme de la paix et des concessions mutuelles. Il a été contre la fureur fanatique et l'obscurantisme de la bêtise. Ça, je cite son biographe, Jacques Drillon. C'est vrai que Érasme est resté fidèle à Rome. C'est un intellectuel aussi. Il n'a jamais pris position de façon très claire. Il a pris position intellectuellement, mais il n'a pas pris... Sauf à la fin de sa vie, il a pris position contre Luther. Il est resté fidèle à la papauté tout en envoyant des piques et des critiques acerbes sur le système, sur ses déviances, sur le mercantilisme de la papauté, mais il est resté fidèle à Rome, disons, entre guillemets. Il n'a jamais voulu prendre position contre Luther, alors que Luther le lui a demandé, dit que c'est moi qui ai raison, et ils étaient proches dans la pensée, mais et finalement, in fine, deux, trois ans avant sa mort, Erasme a quand même écrit un petit texte en disant à Luther qu'il se trompait, et à ce moment-là, Luther a été d'une violence dans une réponse à Erasme, là, démoli Erasme en quelques lignes, de façon assez méchante, carrément. Hein? Mais bon, Erasme, je ne sais pas... Il passait au-dessus de tout ça. Hein. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on sait maintenant que Erasme était quelqu'un d'assez humoristique, très lunatique, d'une distraction absolue, ce qui fait qu'il y a plein d'anecdotes qui courent sur lui, sur la manière dont il oubliait les choses, etc. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter un des ouvrages les plus célèbres d'Erasme, les Adages. Les Adages d'Erasme, donc c'est une compilation de citations prises aussi bien chez le roi Salomon, que vous voyez au-dessus, que chez Hésiode, Euripide, Théocrite, Pindare, etc. Donc c'est la connaissance, l'humanisme parfait, la connaissance des auteurs classiques, dont vous avez chaque fois les portraits, dans un joyeux mélange, et chaque fois, Erasme donne, après la citation, son commentaire, qui peut être un commentaire d'ordre littéraire, grammatical, qui peut être un commentaire d'ordre moral, qui peut être un commentaire d'ordre philosophique, qui peut être tout à fait personnel. C'est un jeu, comme ça c'est une manière d'approcher. C'est grâce à des ouvrages tels que ceux-ci que des écrivains, que Claude a été connu, donc que les tragédies, que les comédies, etc., sont arrivées jusque dans nos régions et qu'on a continué. Shakespeare ne peut pas exister sans Erasme. Pas plus que Molière, etc. Tout ça vient d'Erasme, d'où son importance quand même dans la culture européenne occidentale. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de tous les personnages que le Nouvel Obs avait présentés. Vous voyez que je vise plus que la redécouverte de l'Italie et de l'Antiquité, mais il faut quand même que j'en parle parce que c'est important. Et la première image que je vais vous présenter, c'est une miniature conservée à Gand, sans doute faite à Gand, et qui représente Xeuxis dans son atelier. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire. On demande au peintre... C'est une histoire racontée par Cicéron. C'est une des sources de ce que l'on sait sur la peinture antique. Et Cicéron raconte que Xeuxis a été invité à peindre le portrait de la belle Hélène, la reine Hélène, la plus belle femme du monde. Évidemment, vous voyez au-dessus dans la fenêtre du haut, le peintre et le roi qui arrivent ensemble, le roi est reconnaissable à son chapeau rouge, on le trouve dans les trois scènes, le peintre à son manteau bleu, ils arrivent devant l'habitat, les amants ou les fiancés se disputent parce que chacun revendique avoir la plus belle femme, évidemment. Toutes les femmes modèles sont à l'intérieur. Xeuxis doit choisir, mais ne réussit pas à trouver la perfection. Et donc il choisit 5 modèles et prend ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Et il va faire comme ça le portrait de la belle Hélène. C'est assez intéressant dans l'idée de néoplatonicisme de dire que la pensée, l'idée existe, la beauté est là, mais elle est idéale. On est très fort dans la philosophie quand même, très proche. Ce qui m'intéresse dans ce tableau-ci, c'est d'une part de se dire qu'en 1400, plus ou moins, on connaissait l'Antiquité à Gand, on connaissait l'histoire. Mais évidemment, on n'a aucun modèle plastique. Et donc le peintre ici... Il prend comme modèle de beauté antique le modèle de beauté qu'il connaissait, donc l'idéal féminin du gothique finissant. Et on va trouver, donc, quand on fera ça à Rome un siècle après, Vasari va peindre la même scène, ça sera évidemment des nus, et non plus des personnes habillées, ça sera 5 femmes nues, qui auront toutes la pose d'une sculpture antique qu'on aura retrouvée. Il a le modèle sous la main, Vasari, il peut peindre sans problème cette belle Hélène. Ce qui est intéressant aussi, mais j'en parlerai un peu plus tard, c'est la manière de créer l'espace, la conception de l'espace. Ce n'est pas une perspective comme on la voit d'habitude, mais il y a des fenêtres, un peu comme sur nos PC, on ouvre des fenêtres, et donc il y a 3 fenêtres, enfin, il y a 2 fenêtres ouvertes sur le fond d'écran, hein, une fenêtre, et qui permet chaque fois de donner une prolongation aussi bien spatiale, on voit l'extérieur de la salle, donc on agrandit, on approfondit le tableau, mais donc un agrandissement spatial, mais aussi un agrandissement anecdotique. On peut raconter l'histoire, ce qui s'est passé avant la mise en peinture, etc. Donc on ouvre vraiment des fenêtres comme on le fait sur nos PC actuellement. autre approche de l'Antiquité. Voici le jugement de Paris par Lucas Garnac, l'ancien aussi. C'est un tableau qui date de plus ou moins 1525. Ici aussi, les Garnac père-fils, une famille de peintres. Ça sera un partisan de Luther et on verra, on verra un peu plus tard de ses œuvres qui ont vraiment un caractère didactique et parfois même polémique, mais ça, j'en parlerai après. C'est quelqu'un qui a aussi son propre idéal féminin et qui a une approche, un érotisme très particulier. Et vous voyez dans les Trois Grâces, la manière de peindre les Trois Grâces lui permet de présenter son idéal féminin selon toutes les facettes, évidemment. Botticelli fera la même chose dans La naissance du printemps, hein, en représentant les déesses en danse. Mais, de nouveau, il n'a pas de modèle antique, Lucas Garnac. Et donc, Mercure, qui conduit les déesses à Paris, ben, il ressemble à Wotan, beaucoup plus qu'à Mercure. C'est le dieu messager germanique. Donc, on prend comme modèle ce qu'on a sous la main. On n'a pas de modèle antique, on a Wotan. On prend Wotan comme modèle. De même que Paris a l'air beaucoup plus, n'a pas l'air tellement d'un berger, mais plutôt d'un chevalier. On est dans une société de cour, une société chevaleresque, et c'est ce que Garnac utilise. Évidemment, il y a le petit Cupidon là au-dessus, c'est normal. Donc, de nouveau, une connaissance de l'histoire, une connaissance de l'Antiquité, mais pas des modèles plastiques de cette Antiquité. Il y a d'autres choses à dire, comme l'importance du graphisme dans un tableau comme celui-ci, où la ligne sinueuse est vraiment très importante. Il faut aussi parler du paysage à l'arrière, mais ça, comme j'ai un chapitre sur le paysage, je vous en parlerai un peu plus tard. Il est clair que tous ces tableaux pourraient se retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres chapitres que je vais développer par la suite. Il a fallu faire un choix à un moment donné, me baser plutôt sur le côté de l'Antiquité, que sur ici, le choix que j'ai pris, c'est voir comment l'Antiquité était perçue, l'Antiquité ou l'Italie était perçue ici. Alors, ceci est un dessin. Je me trompe. Voilà. C'est un dessin de Jean Gossard. Jean Gossard d'Imabus, né à Maubeuge, vers 1478-1480. Visite l'Italie en 1507-1508. Avec un fils bâtard du duc de Bourgogne, Philippe de Bourgogne, fils de Philippe le Bon, et qui était évêque à Utrecht. Et donc, il visite l'Italie, et son voyage en Italie va modifier complètement sa manière de peindre. En Italie, il prend des croquis, et voyez une page de croquis. Il y a l'homme à l'épine, qui enlève l'épine de son pied, qui est une sculpture, mais qui est de façon assez originale, prise en contre-plongée, ce qui est assez rare à l'époque. Il y a une volonté. C'est pas un croquis fait à la va-vite, c'est un croquis construit. C'est construit comme une œuvre à finalité propre. La zone centrale est occupée donc par le jeune homme à l'épine, mais vu en contre-plongée, ce qui est assez étonnant, parce que bon, même sur le socle sur lequel il était, semble-t-il, sur la place du Capitole à Rome à l'époque, on le voyait de haut, on ne le voyait pas d'en dessous. Donc il y a une volonté là du peintre de lui donner une grandeur autre que réelle. Vous voyez tous les petits dessins, détails de chaussures, etc., qui entourent cette scène centrale. Donc la feuille de croquis est vraiment développée comme une œuvre à finalité propre, qui est pour elle-même. Si vous avez l'occasion prochainement d'aller à Sainte-Vaudru, à la collégiale Sainte-Vaudru, vous verrez qu'une chaussure avec une tête de lion est portée, semblable à celle qui est représentée ici, est portée par la force, la sculpture qui représente la force à la collégiale Sainte-Vaudru, et c'est fait que cette chaussure rappelle Hercule, etc., la tête de lion, etc. Donc il y a une connaissance de l'Antiquité, mais à bon escient. On connaît l'Antiquité et on l'utilise convenablement. Autre œuvre intéressante qui vient d'un peintre hollandais peu connu, Herman Postam, qui s'est fait appeler Postumus après, qui est un tableau, la Rome antique telle qu'on l'a visité. Le thème du tableau est en fait dans l'inscription, Tempus et Dax Rerum, Tuque Invidiosa Vetustas. Vetustas, donc phrase dans laquelle Ovid, le poète, s'en prend au temps, qui ronge toute chose. Hein, et à la vieillesse envieuse qui détruit tout, qui a tout détruit. Et donc, ici, cette vieillesse envieuse qui a tout détruit va même plus loin que la réalité, puisque la ruine du temple rond qui est là n'était pas aussi ruinée que ça à l'époque où le peintre a fait le tableau. Donc il a rajouté des ruines à celles qui existaient déjà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le petit peintre qui est en train de prendre des mesures de la base d'une colonne en plein centre du tableau. Donc il y a là, et la découverte. Je parlais des grotesques tout à l'heure, vous voyez l'ouverture sous-sol, là. Donc c'est dans ces lieux-là, au Mont-Palatin, etc., qu'on a découvert les premiers grotesques. Il y a évidemment un goût ici flagrant pour l'Antiquité. Ça date de 1536, ce tableau date de 1536. C'est assez intéressant parce que Postumus va être à Rome en 1537, lorsque Charles Quint va faire une entrée triomphale, et il va entre autres faire construire des arcs de triomphe sur le parcours de Charles Quint, en s'inspirant évidemment de tout ce qu'il a, des arcs de triomphe antiquité. Donc il était vraiment un vrai antiquaire, si on peut employer ce terme-là, à la recherche, à un archéologue en tous les cas. Et certains des détails ont une valeur archéologique. Autre manière de prévoir l'antiquité, c'est ici un Antoine Caron, qui est un peintre français cette fois-ci. C'est une peinture qui date de 1566. C'est un thème peu courant, c'est la vengeance du triumvirat, c'est-à-dire après l'assassinat de Jules César, les triumvirs ont suscité une certaine vengeance, et donc Brutus et tous les... Donc vous avez au fond du Colisée les trois triumvirs, hein, Octave, Antoine et Lépide, qui sont assis dans le Colisée, et ils ont commandé donc l'assassinat des partisans de Brutus et de Cassius, ce que l'on voit devant. C'est peint pour Marie de Médicis à Paris, quand on sait que la Saint-Barthélemy va arriver quelques années après. Il y a comme une prémonition de ce qui va se passer. Vous voyez aussi que dans ce tableau-ci, il y a la pyramide de Cestius, tout juste derrière les triumvirs. Vous avez le Panthéon, ça j'en ai derrière encore. Vous avez l'obélisque du Vatican. Vous avez le Septizonium, à droite, sur trois étages. Il lui a été détruit seulement entre 1585 et 1590. C'est assez intéressant aussi de voir que les artistes du Nord vont en Italie découvrir l'Antiquité, mais que les Italiens n'hésitent pas à détruire leurs antiquités. Puisque je vous dis, ce monument-là a été détruit en 1585-1590, et que le Colisée servait de carrière pour les grands travaux entrepris à Rome. Donc le respect de l'Antiquité, ça a été redécouvert par les Italiens. Certains y ont fait beaucoup attention, mais d'autres considéraient que ça n'avait pas beaucoup de valeur. Ici, évidemment, c'est l'Antiquité qui est presque... Qui nourrit, je dirais, le fantasme du peintre. Hein. Ça devient une vision tout à fait onirique de l'Antiquité. Il mélange, il fait un collage, si on peut appeler. Dernière approche de l'Antiquité par un peintre hollandais, de nouveau, Martin van Heemskerk. Martin van Heemskerk qui a accompagné Jacques Dubreuc lors de son voyage en Italie au début du XVIe siècle. C'est un peintre qui est né à Harlem. Qui est assez intéressant parce qu'il pose devant un tableau qui le représente en train de peindre le Colisée nouveau. Et donc vous avez le peintre en train de dessiner, vous avez l'étiquette du tableau collée avec de la cire rouge sur le panneau, hein, et c'est là où il a signé Martin van Heemskerk, l'année, etc. Et puis vous avez derrière le Colisée. Colisée qui était considéré comme le monument de Rome, comme le symbole de Rome et de la puissance de Rome, de la Rome antique. Or, il se détruit lui aussi. Donc il y a comme aussi une certaine manière de Martin van Heemskerk, qui est représenté ici à l'âge de 40, je ne sais plus quel âge exactement, mais assez âgé, me semble-t-il. Oui, ici il est âgé de 55 ans, c'est d'ailleurs noté, hein, 55, son âge souhait. Hein, donc c'est un tableau de 1553. Martin van Heemskerk a 55 ans, mais il a été à Rome quand il avait 35 ans, au début des années, vers les années 1530. Et donc il se représente âgé devant une vue de lui jeune en train de peindre le Panthéon, le Colisée. Et donc il y a aussi une espèce de recherche. Le côté éphémère l'intéresse, c'est presque une vanité quelque part, où il se représente en âgé devant lui jeune, comme le Panthéon se détruit, lui se dégrade. Quelque part, il y a un parallélisme entre les deux. Et donc, l'Antiquité va servir aussi, les éléments antiques découverts à Rome vont servir aussi de base à des réflexions beaucoup plus plastiques et vont servir de modèle pour autre chose que pour l'Antiquité elle-même. Je vais aller. Je m'arrête 30 secondes sur celui-ci parce que, d'une part, c'est un tableau peu connu aussi, c'est Jean Belgambe, qui est un artiste du Nord, de la France. Ce qui m'intéresse surtout dans ce tableau-ci, c'est le fait qu'ici, le peintre a connaissance d'un certain vocabulaire antique, mais qu'il l'utilise un peu n'importe comment. C'est une fantaisie, ce siège est une véritable fantaisie, le siège sous lequel est assis la Vierge, est une fantaisie architecturale, une sorte de délire, c'est un répertoire. Il a connaissance du répertoire antiquisant, mais il n'en a pas une maîtrise. D'ailleurs, la perspective est terriblement rallongée, accélérée de ce siège. Donc il y a ici, de nouveau, et tout le contour de l'œuvre, la peinture, les peintures elles-mêmes sont encore dans la tradition gothique. Il n'y a vraiment que ces éléments d'architecture rêvée antique ou antiquisante qui renvoient à l'Antiquité. Je finis par un nouveau tableau de Jean Mabuse, de Jean Gossard, Saint-Luc peignant la Vierge. Je ne vais pas m'attarder trop, mais le thème de Saint-Luc peignant la Vierge est un thème évidemment très intéressant à ce moment-là, puisqu'on va bientôt aboutir sur l'iconoclasme, le droit à reproduire l'image. Donc Saint-Luc, évidemment, quand on présente Saint-Luc peignant la Vierge, il y a évidemment une volonté de dire que l'image a son droit d'exister, a le droit d'exister, et n'est pas refusée par l'Église. Donc il y a déjà une tension vis-à-vis de la réforme qui va arriver à supprimer à certains moments les images. Donc on a Saint-Luc peignant la Vierge, dans un décor de nouveau architectural assez foisonnant, vous avez des tondis, vous avez des reliefs, etc. Et puis quand on va vers l'arrière-plan, on retrouve un portique gothique, une fontaine gothique, etc. Donc les deux coexistent sans problème, on peut avoir une connaissance de l'Antiquité tout en respectant l'art qui se fait dans nos régions, l'art gothique à ce moment-là. J'ai fait survoler en vitesse les rapports entre Antiquité, Italie et Nord. On va voir maintenant les conceptions spatiales et la perspective, puisqu'on a souvent dit que la Renaissance se caractérisait par la perspective linéaire, ce qui est tout à fait juste. Mais il n'y a pas que ça. Alors voilà, si de nouveau, c'est Luc peignant la Vierge. Ici, c'est Roger de Lepasture. Ça date du milieu, même pas, du premier tiers du XVe siècle, on est vers 1430, 1435, il y a une maîtrise de la perspective, il y a une connaissance de la perspective. Vous regardez au sol, vous regardez le banc, il y a une perspective linéaire jusqu'à un certain point. Il y a évidemment un tableau tout à fait construit, vous faites se croiser les deux diagonales, vous arrivez au centre du tableau forcément, mais qui est aussi le point de fuite de ces lignes de perspective, tout juste entre les deux personnages sur le parapet. Donc il y a l'utilisation d'une perspective linéaire, il y a l'utilisation d'une perspective atmosphérique, je dirais, avec le paysage derrière qui approfondit énormément, surtout avec ce fleuve qui ouvre vraiment sur l'horizon. Et cette coexistence entre deux perspectives ne va jamais poser problème aux peintres du Nord, en tous les cas. C'est naturel pour eux. Il n'y a pas de raison de ne pas recourir à plusieurs systèmes. Et finalement, la peinture dite flamande, ou la peinture dite des primitifs flamands, est une peinture qui va, elle aussi, s'inventer un système de perspective, mais différent de celui auquel on aura recours en Italie. Autre tableau flamand, du milieu du XVe, c'est... Je vais revenir en arrière. Pour attirer l'attention, d'une part, sur le fait que le peintre Roger van der Weyden se peint lui-même sous les traits de Saint-Luc. Donc c'est un autoportrait. Donc il se met en valeur, il se valorise comme ça. Et alors c'est soi-disant réaliste. On dit toujours que la peinture flamande est réaliste. C'est vrai qu'elle est hyper réaliste dans le rendu des tissus, des matières, etc. Mais vous remarquerez aussi que sous le bureau de Saint-Luc, il y a un bœuf couché, ce qui est assez étonnant, c'est quand même pas une étable. Mais bon, voilà, il faut bien identifier Saint-Luc. C'est son animal dans le tétramorphe évangélique. Donc, on inclut le bœuf, tant bien que mal. Mais il n'y a pas de problème, il y est. Et il s'inclut tout à fait naturellement. Il ne choque pas. Sa présence là ne choque absolument pas. Remarquez aussi que la Vierge n'est pas assise sur le banc, mais au pied du banc. Elle n'est pas assise sur le siège, mais devant. Et ça aussi, il y a une raison, c'est symbolique. C'est la manière de montrer l'humilité de la Vierge. Donc elle n'ose pas s'asseoir sous la cathèdre. Elle est dans un univers à elle. Elle a son dais, elle a ses rideaux qui l'isolent en quelque sorte du reste de la pièce, qui lui donnent une valeur plus grande. Mais en même temps, elle s'assied devant ce siège comme si elle ne pouvait pas accéder à cette gloire, entre guillemets, qui lui est reconnue par ailleurs. Donc la dernière scène de Dirbutz, avec de nouveau un autoportrait. On s'accorde tous, enfin tout le monde s'accorde à reconnaître dans le personnage à droite avec son bonnet rouge, sur la tête, debout, donc tout près de la crédence, un autoportrait de Thierry Boots. Ici aussi, il y a toute une maîtrise, même s'il y a un peu un renversement, un peu un rabattement de la table vers l'avant pour présenter un peu plus de profondeur, il y a quand même toute une perspective qui joue, y compris dans ces fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur, et puis les deux personnages qui regardent. Il y a un point de fuite unique, précis, au-dessus du manteau de cheminée, tout juste en dessous du manteau de cheminée, au-dessus de la porte, pardon. Et donc tout ça est maîtrisé aussi, mais pas de la même manière qu'en Italie. Le point de fuite, est beaucoup trop haut par rapport à une vision normale, entre guillemets, ou italienne de la Renaissance. Alors, un petit panneau de Juan de Flandes. Juan de Flandes est un peintre gantois, vraisemblablement, qui est rentré au service d'Espagne, d'Isabelle de la Catholique, et qui a peint, là, entre 1496 et 1520 à peu près, et qui a peint d'énormes... C'est un tout petit panneau, hein, il fait 15 sur 20 cm à peu près, celui-ci. Mais il en a peint une quarantaine, qui devait servir dans un petit retable portatif que Isabelle la Catholique emmenait avec elle partout où elle allait. Et Dürer a vu ce tableau et trouvé que... je cite ici Dürer qui dit « J'ai vu une quarantaine de petits panneaux peints à l'huile dont je n'ai jamais vu l'équivalent ni en pureté ni en qualité. » À ce moment-là, Dürer a déjà visité l'Italie deux fois. Et donc, il y a là une reconnaissance par Albert Dürer, qui est quand même un des grands maîtres du nord des Alpes, d'une qualité dans ce tableau. Ici aussi, l'autoportrait, toujours entre les colonnes, entre les piliers, c'est de nouveau l'autoportrait de Juan de Flandes. Donc toujours cette volonté de s'inscrire dans l'image qu'il présente, les peintres veulent être présents et participer à la scène, à la fois pour justifier leur métier et à la fois comme c'est une forme de témoignage. J'attire votre attention aussi sur le miroir convexe, concave, j'oublie toujours, convexe, merci, qui est au fond, hein, miroir qu'on va retrouver dans le célèbre portrait des Arnolfini, de Van Eyck, j'en parlerai peut-être, si j'arrive jusque-là, tout à l'heure. Voilà. On avait au Moyen-Âge, on avait l'habitude de considérer que les noces de Cana, c'était le mariage de Saint-Jean. Le Saint-Jean l'évangéliste s'était marié. Et que c'était à l'occasion du mariage de Saint-Jean que le Christ avait fait son premier miracle. Et donc, il y a des chances que dans cette tradition a servi de modèle ici, où le marié en rouge a les traits juvéniles qu'on donne d'habitude à Saint-Jean. Et c'est sans doute basé là-dessus. Alors ça, je vais aller plus vite, c'est une œuvre de Suavius. Suavius qui est s'appelle Zutman, et qui est un peintre de Liège. Qui a fait ce tableau aussi en n'ayant jamais été en Italie. Donc, il l'a fait sur base uniquement des descriptions littéraires et des dessins, croquis de dessins, gravures d'architecture qu'il a pu connaître, mais à Liège même. C'est la rencontre entre Saint Paul et Denis, l'aéroplane, au dieu inconnu, hein, la scène qui dit que les Athéniens avaient un hôtel dédié au dieu inconnu, et que Saint Paul a dit, mais ce dieu inconnu, il n'est plus inconnu puisque c'est le mien. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Vous voyez ici, alors, tout à fait la maîtrise de la perspective du langage architectural renaissant classique, je dirais, du XVIe siècle, ici, les piliers, les colonnes, le rendu des marbres, le rendu du pavement, l'écriture grecque, tout est bien marqué, et le dieu, la sculpture, là-dedans. Alors, autre image un peu étonnante, Hans Baldungrin, qui est vers début du milieu du XVIe siècle, pardon. C'est un curieux mélange qui rappelle un peu le Christ de Mantegna, le Christ couché de Mantegna en raccourci énorme. Il y a aussi un raccourci assez étonnant. Cette sorcière qui se penche, le raccourci du cheval, Et tout ça dans une perspective très bien liée. Je n'ai pas attiré votre attention dessus tout à l'heure, mais si vous avez l'image en tête, vous vous rappellerez que aussi bien le Saint Jérôme de Durer que le Saint Jérôme de Messine, Antonin de Messine, sont à l'avant de scène, il y avait une marche. Chaque fois qu'il donne, comme si on entrait dans le tableau. Vous retrouvez la même manière de faire ici, cette espèce de marche qui permet de franchir le seuil, si vous voulez, et de participer, de rentrer dans l'image. L'image se donne comme une fenêtre, s'ouvre comme une porte ou comme une fenêtre sur un autre monde. Et c'est ici, on rentre par une marche dans le tableau. Ça, c'est la manière dont les peintres, les artistes du Nord ont appréhendé la perspective, une perspective. Alors ici, on a un tableau tout à fait étonnant, conservé à Anvers, de Jean Fouquet, qui date de 1450, donc à un moment où, en Italie, on met au point la perspective linéaire. Et ici, Jean Fouquet, lui, il choisit tout à fait autre chose. Il fait une peinture beaucoup plus intellectuelle, je dirais. Il réduit tout à des formes géométriques simples. Regardez, ce sein, c'est une hémisphère parfaite, et il doit tellement être parfait qu'on a omis le téton, parce que ça deviendrait gênant sur cette forme idéalisée, le téton devient gênant, donc on le supprime. Les membres de l'enfant Jésus sont des volumes simples, durs, et les petites perles sur le trône de la Vierge, c'est des sphères parfaites, et les anges aussi, hein, la volumétrie des anges est assez extraordinaire. Et puis pour faire une profondeur, pour créer une profondeur, Jean Fouquet, lui, va avoir recours non pas à la ligne, mais à la couleur. Et donc, en jouant sur des couleurs chaudes et des couleurs froides, le rouge, le bleu, il crée un avant-plan, un arrière-plan. Et donc, il crée une profondeur uniquement en se basant sur les couleurs, en rabattant tout dans le même plan, mais en jouant sur les couleurs. C'est une piste que Jean Fouquet lance en 1450, qui ne sera pas suivie. Il faudra attendre le début du cubisme, Fernand Léger, pour voir réapparaître cette formule et l'avoir réutilisé dans la peinture européenne. Donc, à un moment donné, c'est un tableau abouti, quelque part, qui aurait pu poursuivre et se continuer, donner naissance à toute une autre histoire de la peinture. Mais en 1450, c'est l'Italie qui prime, et on oublie ce type de recherche. Autre manière de créer une profondeur sans recourir à la perspective linéaire, à unique point de fuite, c'est les ouvertures de fenêtres, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de Xuxis, vous avez la même chose ici. Vous avez d'abord un avant-plan sur ce parapet. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'inture morte qui renvoie aussi à des symbolismes. C'est du réalisme, je dirais, pas magique, mais du réalisme symbolique. Hein. La grenade rappelle la résurrection, la passion, etc. Donc sur ce parapet, vous avez déjà un couteau qui dépasse, donc qui donne déjà une profondeur supplémentaire. Vous avez le parapet, vous avez la Vierge. Derrière la Vierge, il y a Saint-Joseph. Derrière Saint-Joseph, il y a une fenêtre qui s'ouvre. À côté de la Vierge, vous avez une étagère sur laquelle il y a également un livre qui est déposé de travers, donc qui redonne une profondeur supplémentaire. Et donc, ici, la profondeur n'est plus donnée par un jeu de lignes vers un point de fuite unique, mais uniquement par un agencement, un peu comme des décors de théâtre qu'on place les uns derrière les autres et qu'on rabat l'un sur l'autre. On va trouver ça dans des portraits, comme dans ce portrait de Hans Memling, qui s'ouvre aussi vers l'extérieur. Ça rappelle un peu la mise en scène aussi de la dernière scène de Juste de Gand que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce n'est pas par hasard. On retrouve ce même procédé dans cet extraordinaire autoportrait de Albert Dürer, avec ce paysage derrière qui s'ouvre sur un paysage tout à fait imaginaire aussi. Albert Dürer qui scrute l'homme, et donc j'aurais pu le mettre aussi dans le côté humanisme, et recherche et questionnement sur ce qu'est l'homme. On sait qu'Albert Dürer était torturé, un personnage s'est torturé, d'ailleurs sa gravure, La Mélancolie, que je ne vais pas présenter, le présente, cet aspect de questionnement, d'angoisse avant l'acte créateur. Et Dürer, dans ses journaux, puisqu'il a quand même laissé pas mal d'écrits et de croquis, parle aussi de cette difficulté. On trouve cette même façon de faire dans un portrait de groupe comme ici Maximilien et toute sa famille, avec Charles Quint en bas, au centre, Ferdinand, Marie de Bourgogne, Philippe, etc. Mais de nouveau, ce fond uni derrière Maximilien et l'ouverture derrière son épouse. Beaucoup plus complexe, mais toujours sur ce même procédé de construction, vous avez cette extraordinaire Diane Aubin, qui est sans doute, oui, Diane Aubin, qui est sans doute Diane de Poitiers, la maîtresse de François Ier d'ailleurs, et qui date de 1570. C'est une mise en espace terriblement complexe. On retrouve un peu celle qu'on vient de voir de la Vierge à l'enfant, mais ici aussi, un avant-plan, dans cet avant-plan, une nature morte. La main de Diane, qui tient une petite flèche en main, qui dépasse le bord de la baignoire. Le bras de Diane qui referme, qui recrée presque un deuxième cadre. Les rideaux qui s'ouvrent. Donc il y a déjà, si on commence comme ça, il y a d'abord les rideaux qui s'ouvrent. Ce rideau s'ouvre sur une baignoire. Le drapé de la baignoire entre sous la main, donc crée déjà une deuxième profondeur. Vous avez Diane dans son bain, vous avez la nature morte posée sur une table, donc qui donne une profondeur. Tout de suite derrière, vous avez un enfant qui ne s'occupe pas du tout de Diane, mais par contre est fort intéressé par les raisins. Il y a un raccourci du bras assez étonnant. On se demande comment ils peuvent se placer tout ça dans le même espace. Tout de suite derrière cet enfant, vous avez une nourrice qui regarde avec envie les raisins aussi d'ailleurs. Tout de suite derrière, vous avez une servante qui est en train de mettre une table. Tout de suite derrière, vous avez le rectangle noir de la cheminée, surmonté par un paysage dont on voit une partie. Vous avez le carré du dossier de la chaise ou du fauteuil derrière la servante, surmonté par le carré d'un tableau. Et tout ça avec une fenêtre. Si vous divisez ce tableau-ci, si j'avais eu un pointeur, vous avez monté. C'est vraiment une construction, une accumulation de carrés sur des carrés sur des carrés sur des carrés qui font évidemment une profondeur, qui créent une profondeur visuelle sans avoir recours à la perspective linéaire. On va trouver un peu moins complexe, mais le même procédé dans ce célèbre tableau aussi. J'en profite aussi pour dire que ce qu'on a souvent dit, que la peinture au nord des Alpes était plus pudique, entre guillemets, ou moins érotique que l'italienne. Les deux derniers tableaux qu'on vient de voir prouvent quand même un peu le contraire. On en verra peut-être d'autres aussi. Alors, ce procédé de mettre un avant-plan pour permettre créer une profondeur, on va le trouver y compris dans des paysages. Et regardez ce paysage de Bruegel. Il y a un avant-plan, et puis il y a une descente directe, donc comme un décor, un élément de décor. Et on voit le paysage suivant en plongée. Et donc, on peut lui donner une profondeur énorme. Sans avoir recours, de nouveau, il y a bien sûr ces arbres qui s'échelonnent et qui étalonnent l'espace selon la diagonale. Il y a l'extraordinaire corbeau en plein vol qui, évidemment, donne un espace aussi, crée une idée d'espace. Il y a une tension, il y a un espace créé. Et puis, on va vers ces montagnes qui remontent tout à fait à l'arrière-plan du tableau. Mais vous voyez ici aussi une création d'une profondeur sans devoir avoir recours à la perspective linéaire. Même chose dans ce baptême de Joachim Pattenir, baptême du Christ. Pattenir qui est un peintre d'Inantais, lui il est né à Bouvigne vraisemblablement, mais il fera sa carrière à Anvers. Forcément, les centres artistiques suivent en général les centres commerciaux. Et donc, après Bruges, à l'ensablement d'Usuine, c'est évidemment vers Anvers que les peintres vont se retourner. Remarquez un peu la répétition des rochers. Donc, le rocher central qui souligne, qui fait l'axe avec le Christ, évidemment, c'est le centre du tableau, mais qui est répété deux fois par la suite et qui, donc, lui, crée aussi une profondeur puisqu'ils vont en diminuant de taille et donc en créant de plus en plus. Remarquez aussi, et c'est assez important, que la peinture gothique, isoler les scènes chaque fois dans une niche architecturale. Ici, c'est un seul paysage qui unifie toute la scène. Et même s'il y a plusieurs scènes, on voit le Christ arriver pendant que Saint Jean-Baptiste prêche, mais tout ça est unifié dans un seul paysage. Et donc, le paysage va servir de lieu dans lequel se déroule l'histoire. Et évidemment, c'est très important dans les écrits théoriques. L'histoire, peintre d'histoire, c'est mieux que peintre de choses mortes, évidemment. Il y a toute une hiérarchie dans la valeur d'un peintre. Un peintre est meilleur quand il peint. Un peintre d'histoire, c'est le sommet. Peinture religieuse, c'est de la peinture d'histoire. En dessous vient la nature morte. C'est beaucoup moins intéressant puisque ça ne bouge pas, c'est pas vivant, il n'y a pas d'histoire à raconter, pas d'histoire, donc pas de morale à donner, pas de sens à donner. Et donc, toute la hiérarchie des genres va venir de la Renaissance. Et dans un tableau comme ceci, le paysage va prendre tellement d'ampleur qu'à la fin, Joachim Pattenir fera des paysages pour le paysage, presque. Ici, c'est évidemment Charon qui traverse le Styx, mais c'est aussi, d'un côté, le paradis, on dirait des anges avec leurs ailes, de l'autre, l'enfer avec le feu de l'enfer, etc. C'est à la fois l'enfer, c'est à la fois l'antiquité, mais c'est un beau syncrétisme de tout, de toutes sortes d'influences. Mais ici, le paysage, c'est évident, devient primordial. Hein, et il n'y a que le paysage. Je faisais remarquer il n'y a pas longtemps que, de manière assez étonnante, les premiers paysages en peinture viennent de la peinture nordique, ça c'est reconnu, mais que ces paysages ne sont pas du tout réalistes. Les premiers paysages qui apparaissent dans l'histoire de la peinture sont des paysages imaginaires comme celui-ci, et pas du tout réalistes. Autre paysage assez étonnant, mais je vais aller un peu plus vite, c'est Lucas Granach. Ici, ce qui m'intéresse entre autres, c'est le paysage d'Arriéré aussi, la manière de jalonner la profondeur avec ses arbres et cette vue sur les Alpes, et puis cette manière de construire, très construite, des personnages centraux, la Vierge Saint-Joseph et l'enfant Jésus, qui sont construits dans un triangle au centre du tableau, et qui donc construisent aussi, en étant en avant-plan, construisent la profondeur d'une certaine façon. Et alors ça, c'est un tableau extraordinaire, c'est la Althoffer. Tableau extraordinaire dans sa dimension, dans ce rendu, c'est les batailles d'Alexandre. Il y a énormément de personnages. Il y a une vision tout à fait imaginaire, puisqu'il se met en plongée, comme ceci, et il voit tout le bassin méditerranéen. Le fond, c'est la Méditerranée, toute la Méditerranée. Depuis l'Égypte, on voit le delta du Nil, avec les sept bras qui tombent dans l'eau, dans la mer, là. Donc, il y a l'Égypte et le delta du Nil, il y a Chypre, il y a toute la Méditerranée. Dans une vision assez extraordinaire, ce peintre imagine toute la Méditerranée, il imagine tous les combats, et il rend cela avec un fourmillement de personnages traités avec le minutie du réalisme dit flamand, ou dit nordique, et avec un jeu de chromatique en plus, assez fabuleux. Et alors, de nouveau, je ne l'ai pas fait remarquer, j'aurais pu lire, le tableau précédent, l'enfer, entre guillemets, le feu qui brûlait au fond, et ici, le soleil se couchant, ont aussi des rôles très importants dans l'idée, dans la manière de donner une profondeur à une œuvre. Et je finis par ce tableau aussi, c'est du paysage romantique, je dirais, on est toujours au XVIe siècle, en 1510, donc au début du XVIe siècle, c'est l'histoire de Saint-Georges, que vous voyez vraisemblablement ici, Saint-Georges et le dragon, mais on ne le voit plus, le sujet est tout à fait absent, ce qui intéresse le peintre ici, c'est le rendu de ce feuillage, qui devient presque un écran, et qui est traité pour lui-même, qui est expressif, qui sert même pas de décor à Saint-Georges. Saint-Georges est perdu, carrément, dans ce paysage. Il me reste trois, je ne sais pas quelle heure il est. Il me reste une demi-heure, ça va aller, j'espère. Les points suivants, donc, par humanisme, ici, j'entends plutôt la recherche des peintres du Nord sur eux-mêmes, leur questionnement sur l'homme, donc les portraits. Je vais parler forcément cet humanisme, et Gilles Rémy en a parlé il y a 15 jours, aura aussi une influence sur la peinture religieuse, et il nous a présenté le retard d'Isenheim, que je repasserai tout à l'heure. Ça aura donc une influence sur la peinture religieuse, et ça aura évidemment une énorme influence sur la réforme, et ça, j'en parle aussi. Alors, le premier portrait que je vous présente, c'est un portrait de Jean Fouquet, de 1450, plus ou moins, donc le moment où Jean Fouquet, peintre français miniaturiste, va à Rome. Étonnant, le pape Eugène IV, pape de l'époque, commande son portrait à Jean Fouquet. Pas un peintre italien, pas un peintre romain, pas un florentin. C'est Jean Fouquet qu'il choisit et c'est lui qui veut comme portrait. C'est son portrait qu'il veut. Donc il y a là une volonté, y compris en Italie, de reconnaître aux artistes du Nord leur qualité, en tous les cas en tant que portraitiste et en tant que scrutateur, je dirais, réalisme. Bon, ici, c'est un portrait d'un évêque, vraisemblablement. Ce qui est assez étonnant dans le dessin, c'est le rendu du nœud de ce foulard, qui est quand même d'une modernité assez étonnante. Et le regard, ce regard de très personnel, très intensif. Autre portrait connu, avec sans doute une petite critique, Jean Bruegel. Bruegel l'Ancien, qui se regarde, qui fait son autoportrait. Et derrière lui, c'est lui qui a la bourse, c'est l'amateur de peinture. C'est lui qui a les sous, Mais c'est lui qui n'a pas la vision. Hein. Il a des bicycles comme ça, il a des lunettes, il ne voit rien, il a l'air un peu béné. Mais et d'où le côté fâché de Bruegel, qui est obligé de faire plaisir à cette espèce d'imbécile qui a du fric, qui va lui acheter un tableau, mais qui ne comprend rien à ce qu'il fait. C'est un peu ça, la peinture. Et c'est un peu, c'est le sens de cette œuvre. Autre autoportrait étonnant, j'en ai parlé tout à l'heure, Dürer. Dürer a 21 ans. Avec une analyse, il se scrute de nouveau, il étudie sa main, avec une qui est tout à fait hors proportion. Ici, c'est vraiment des feuilles de croquis. Et alors, une présence tout à fait étonnante d'un oreiller, d'une étude d'oreiller, qu'on retrouve à l'arrière de cette même feuille. Alors, une étude d'oreiller, comme ça, au XVIe siècle, c'est du jamais vu. C'est inédit, parce que ça, c'est vraiment pour le plaisir. Dürer s'interroge et interroge les choses qu'il voit, tout. Et tout est mis à la même importance. Un édredon vaut bien un dessin et vaut bien des études. Francesco d'Este, peint par Roger van der Weyden. Si je le prends ici, d'abord c'est étonnant, c'est que le fond est neutre, ce qui est assez étonnant chez van der Weyden, mais ce qui est surtout important à mes yeux, c'est de se dire que François d'Este, de la cour de Ferrare, fait faire son portrait pour un peintre flamand, van der Weyden. Vous avez ici un autre portrait assez extraordinaire d'un chartreux par Petrus Christus, aussi avec un réalisme extraordinaire. Et alors ce réalisme, ce côté éphémère, ce côté volontaire, cette volonté de montrer la maîtrise se voit particulièrement dans cette mouche posée sur le cadre peint. Cette petite mouche de vent qui est posée sur le cadre peint, hein, là en dessous duquel Petrus Christus a signé. Et ce regard très interrogateur de ce religieux. On ne sait pas très bien qui c'est. Il a une auréole, c'est sans doute un saint, mais on ne sait pas lequel. Il n'a pas d'attribut propre. Et la mouche n'est l'attribut d'aucun saint, à ma connaissance. Enfin, la mouche dans ce sens-là, en tous les cas, ne jouons pas sur les mots. Donc, par contre, il y a un rendu extraordinaire dans la barbe de ce moine, dans ce regard inquisiteur, presque, en interrogateur, en tout cas. Alors, le buffon Gunella, ça aussi, c'est attribué à Jean Fouquet, de nouveau. Et là, on est de nouveau dans une... Jean Fouquet, pour rappeler, il est innovateur. À mes yeux, c'est un peintre français qu'on a un peu trop oublié, que les Français ont eu tendance à oublier aussi, d'ailleurs, mais qui est un peintre très important, à mes yeux. Et Gunella, c'était le buffon, de nouveau, des ducs d'Est à Ferrare. Mais c'est Jean Fouquet qui fait le portrait du buffon. Et alors, il y a ce côté rigolard, c'est un buffon, on le voit, il sourit. Il est malicieux, c'est clair, son regard le dit. Il est mal rasé, il peut s'en foutre. C'est son rôle de bouffon de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et puis il y a cette pose tout à fait extraordinaire. Il a l'air pris dans son cadre, à l'étroit dans le cadre lui aussi. Pas de la même manière qu'Henri VIII, mais à l'étroit, coincé dans son cadre. Et c'est une manière très peu académique, de présenter un portrait. Il n'a pas le parapet, il n'a pas la vision habituelle du portrait. Fouquet essaye de nouveau, propose une nouvelle chose. On a parfois dit, mais c'est à discuter, que les bras croisés rappelaient la position du Christ aux outrages, parce que Gonella, le bouffon, serait mort suite à une mauvaise blague. Il a voulu faire trop rire et finalement il y est resté. Et que donc ce tableau aurait été peint post-mortem, et que Fouquet avait voulu rendre hommage au professionnalisme de ce bouffon qui, pour pousser sa blague au maximum, il était resté. Mais bon, j'ai un peu de mal à croire cette version-là, je dois vous avouer. Par contre, de nouveau ici, le jeu qu'on retrouve entre le bleu, le rouge, les bandes de couleurs qui créent de nouveau un rythme dans cette peinture. Comme je vous l'ai dit, cette recherche sur l'homme, l'humain, va aussi déboucher sur des recherches, va avoir une incidence sur la peinture religieuse. Ici, c'est un tableau de Robert Campin, donc le maître de van der Weyden, de 1425-27. Donc le fait que les peintres du nord, au nord des Alpes, s'intéressent à l'homme, au réalisme, vont faire aussi que Dieu, entre guillemets, la religion, va s'humaniser également, va devoir être s'incarner, dans le sens propre du terme. Et donc ici, on est dans un intérieur bourgeois, c'est clair. Il y a encore une mauvaise maîtrise de la perspective. La table ronde est un peu rabattue quand même, elle n'est pas tout à fait, c'est pas dominé. Mais par contre, dans les deux volets, les ouvertures sur les fenêtres qui donnent loin, la perspective est maîtrisée dans l'atelier de Saint-Joseph, foutre du plafond, etc. Vous avez la petite croix qui suit l'ange. Vous voyez la fumée qui s'éteint de la bougie sur la table qui vient de s'éteindre, la fumée est encore là. C'est aussi une volonté de réalisme, c'est montrer que l'ange arrive, on ne s'y attend pas. Donc il débarque et il crée un mouvement qui fait que la flamme est soufflée par l'arrivée de cet ange. De nouveau, la Vierge est devant son banc, elle n'est pas dessus, elle est devant, toujours la même raison. C'est deux livres ouverts, c'est étonnant. Repos pendant la fuite en Égypte, c'est de qui celui-ci, je ne sais plus. Gérard David, donc c'est milieu 16e siècle. Gérard David, c'est un peintre assez intéressant aussi parce qu'on le connaît, un peu dans nos régions, on le connaît beaucoup à Gênes. Et c'est lui qui va avoir la commande de tout un énorme retable à Gênes. Au milieu du XVIe siècle. Il y a des artistes italiens pourtant, mais c'est à Gérard David qu'on va faire appel. Vous voyez aussi les différents plans et aussi un peu la même construction de l'espace que le Bruegel, hein, un avant-plan avec un rocher sur lequel est assis la Vierge, une vue en contre-plongée vers une ville, et derrière la Vierge sur son âne et Saint-Joseph. Donc la fuite en Égypte est présente aussi. On raconte l'histoire en plusieurs épisodes, mais dans un seul espace. On l'a vu avec Gilles Rémy il y a 15 jours, donc le retable d'Isenheim, extraordinaire tableau d'une violence aussi, mais d'une humanité quelque part. On n'est plus dans le Christ triomphant sur la croix, qui a été à un moment donné l'image traditionnelle, voulu, c'était d'ailleurs le Christ était supporté, les pieds étaient à plat sur un socle, sur la croix était attaché un socle et le Christ ne pendait pas à la croix, il était debout sur son socle en gloire sur la croix. Ici, changement radical de situation, le Christ est un homme qui souffre, c'est un humain qui s'affaisse les bras, qui ne tient plus, qui. Il y a le côté vraiment volonté d'expressivité, évidemment, mais très humain aussi, qu'on va retrouver dans sans doute un des tableaux les plus célèbres de l'époque, qui est la descente de croix de Van der Weyden, où on retrouve de nouveau un fond architecturé, c'est une niche, donc là on est presque dans, on retourne en arrière, mais où il y a un jeu de graphisme extraordinaire entre le parallélisme entre la Vierge couchée au sol et le Christ qu'on descend de la croix, la construction avec les saintes femmes qui ferment de part et d'autre, comme deux parenthèses, toute la scène. Cette scène est fermée donc par Saint Jean aussi, hein, le Saint Jean en rouge, qui ferme et qui centre toute la scène sur le Christ et la Vierge. Et puis l'adaptation du sujet au cadre de la peinture, là où est l'axe central, c'est évidemment là où c'est le plus haut, c'est la croix. Qui accentue aussi le Christ, qui attire l'attention vers le corps du Christ. Réforme. Alors ici, je vous présente, pour commencer, la réforme, en ce qui m'intéresse ici surtout, la réforme m'intéresse peut-être, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment c'est une lutte d'image. C'est une lutte, la réforme a beaucoup à voir avec les images. L'image a été utilisée à la fois pour faire passer les idées, pour véhiculer des idées, pour critiquer, et on a bougé, joué avec l'image. La première image que je vous présente, c'est un tableau, c'est la dernière scène, de nouveau, je crois que c'est Cranach. Oui, c'est Cranach. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Cranach, en 1565, représente la dernière scène avec le premier personnage, Calvin, le deuxième personnage, Luther, à côté du Christ, Mélenchon, qui avait traduit la Bible pour Luther. Donc, alors qu'ils étaient tous décédés à ce moment-là, aussi bien Luther que Mélenchon que Calvin. Donc, Granach rassemble dans une dernière scène, donc l'instauration de l'Eucharistie pour dans la religion catholique, dans une même scène, tous les réformateurs autour du Christ. Et ils sont 12. Il y a Judas qui est là aussi. C'est le seul en jaune, d'ailleurs, ici de dos. Vous avez le donateur et vous avez la scène. Vous avez de nouveau, derrière le Christ, une colonne qui est bizarrement placée quand même, mais qui sans doute a un rôle symbolique aussi. Elle représente le seul soutien de tout le bâtiment, enfin du bâtiment ici, le seul soutien de l'Église, c'est le Christ seul. C'est pas le pape et toutes ces inventions-là. Je parle pour Granach. Donc on place cette colonne derrière le Christ comme l'image du rôle, l'image, le symbole de ce qu'est la vraie religion. Et alors vous avez cette perspective, je ne vais pas revenir là-dessus, une perspective dominée aussi bien dans le plafond que dans cette fenêtre qui s'ouvre elle-même sur une autre, etc. Mais ça, on en a déjà parlé. Guerre d'images, mais voici une gravure toujours d'une estampe de Granach. Alors vous voyez de part et d'autre d'une colonne, de nouveau, d'un côté Luther en train de prêcher, en liaison directe avec l'agneau, en liaison directe avec le Christ, en liaison directe avec Dieu le Père. Tout ça se passe bien. Les deux seuls sacrements reconnus par Luther, l'Eucharistie et le baptême, en avant-plan, et puis les gens qui écoutent. De l'autre côté de la colonne, la fausse, la mauvaise Église, évidemment, le pape, le moine d'abord, Tetzel, qui était un moine évidemment corpulent, qui gourmand, goulaf, enfin tout ce que vous voulez, qui vend des indulgences, évidemment. Et donc il est en train de vendre ses indulgences. Vous avez le pape attablé qui compte les sous, Harpagon. Vous avez tous les sacrements derrière qui rapportent des sous. On est vraiment... Et alors, si le Luther est inspiré par le Saint-Esprit, symbolisé par une colombe, comme on voit. Par contre, Tetzel, il est inspiré par un petit diablotin qui fait un soufflet dans son oreille. Donc, c'est vraiment du vent. Quand je vous dis que c'est une guerre d'images, le protestantisme, on y va. Nous étions tout à l'heure dans un jury d'affiches politiques. Une telle image pourrait y passer. Alors, c'est aussi une période où on trafique les images, un peu comme aujourd'hui aussi. Et voici deux vues de la même Bible, mais une avant iconoplasme et une après. Donc, on ne peut pas représenter Dieu le Père. Donc, la même image va servir, on va reprendre la planche, on va supprimer Dieu le Père, on va mettre Yahvé à la place. On corrige en fonction de... Comme je vous l'ai dit, ces longues discussions, ces longues disputes sur l'image a hélas abouti sur la crise iconoclaste, qui a quand même fait énormément de dégâts chez nous. Ici, c'est une scène d'iconoclasme à Anvers, qui date de la fin du XVIe siècle. Ça a fait énormément de dégâts chez nous, parce que on a quand même perdu un nombre énorme d'œuvres d'art à l'époque, qui ont été détruites. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a très peu d'œuvres du début XVe siècle, parce que c'est les premières qui ont été détruites. Les plus anciennes, on les a gardées, mais début XVe chez nous, c'est relativement rare. En Angleterre, Henri VIII va mettre fin à toute une production d'images religieuses. Et il n'y a pas de peinture anglaise au XVIe siècle. Il y a Hilliard, qui est un peintre qui a fait quelques portraits, et puis on n'a plus. On oublie. Il faut faire venir des peintres. Holbein va s'installer en Angleterre. Et puis, il n'y a pas de grand nom de peintre en Angleterre. Il faut attendre que Van Dyck va retourner. Mais ça sera de nouveau. Henri VIII va mettre fin à une tradition d'images religieuses par sa réforme. Donc, ça a eu quand même pas mal d'influence sur l'histoire de l'art et sur l'histoire des images, en tous les cas. Je vais presque respecter mon horaire, c'est extraordinaire. Point qu'on attribue généralement à la Renaissance et que, à juste titre, on attribue à la Renaissance, c'est la question de réalisme, l'observation, y compris de soi, psychologique, et les sciences. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des sciences à la Renaissance, parce que ce n'est pas mon domaine et ce n'est pas mes compétences, mais l'image de la science, oui. Alors, le réalisme, ben voilà, de nouveau un tableau de Robert Campin, La Vierge à l'enfant, où il y a forcément du réalisme, mais il y a un réalisme symbolique. Alors, ici, de façon assez étonnante, la Vierge ne donne pas le sein à l'enfant Jésus, elle donne le sein à nous qui regardons. C'est au spectateur qu'elle offre son sein. Ce n'est pas à l'enfant Jésus. C'est évidemment une raison. Derrière la Vierge, il y a un panneau en osier, un pare-feu en osier. L'auréole, ça fait un peu trop... Ce n'est pas réaliste, une auréole. Par contre, un pare-feu, oui. Donc, on va utiliser le pare-feu. Mais il va évidemment servir d'auréole. Au-dessus de ce pare-feu, il y a d'ailleurs une petite flamme qui dépasse. Pourquoi ? Parce que ça prouve le fait... La flamme, c'est l'image de Dieu. Donc, c'est le fait que Marie est bien dans la droite ligne de la divinité. Elle est accoudée sur un meuble sur lequel il y a un calice. Il ne faut pas en tenir compte parce que c'est une rajoute du 19e siècle. Trouvé, on a prolongé le tableau de 8 à 10 cm sur le côté. On a rajouté une planche et on a repeint dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire du tableau. Donc, mais je sais que tout ça est rajouté au 19e. Par contre, vous avez un trépied à côté du banc. Le trépied est là aussi, pour raison symbolique. Il symbolise les trois personnes de la Trinité. Et donc, on a tout ce réalisme, cette volonté d'aller dans la matière, de connaître la matière, de rendre la matière telle qu'elle est, et chaque fois, du moins au nord des Alpes, imprégnée d'une volonté, je ne vais pas dire de mysticisme, mais d'une volonté symbolique à plusieurs sens. Il m'arrive souvent de dire qu'il est plus difficile pour nous de comprendre une œuvre comme celle-là, figurative, avec tout ce que ça implique comme image pour les gens et de résonance pour le public à l'époque, que de comprendre la peinture contemporaine, même si elle est abstraite. Parce qu'on a beaucoup plus de clés pour la peinture d'aujourd'hui. On vit dans le monde d'aujourd'hui, donc on repère très vite ce qu'il veut dire, pourquoi, comment. On n'a plus du tout les clés pour déchiffrer un tableau comme celui-ci. J'attire quand même l'attention sur la fenêtre ici aussi. La fenêtre ouverte sur un paysage, et donc la possibilité d'approfondir l'espace, mais ça j'en ai déjà parlé suffisamment. Les époux Arnolfini. Arnolfini, italien, installé à Bruges, donc représentant des Médicis à Bruges, donc de la banque. On a dit beaucoup de choses sur ce tableau, que la femme était enceinte, qu'elle n'était pas enceinte, que c'est pas, il n'y a rien qui est prouvé à ce niveau-là. C'est évidemment de nouveau une œuvre soi-disant réaliste, mais qui ne l'est pas du tout. Parce que entre la taille, même s'il est à l'avant-plan des personnages, et le lustre, ben, je crois que si M. Arnolfini recule de deux pas, il se cogne la tête dans son lustre. Donc il n'y a vraiment pas de proportions. Les proportions ne sont pas gardées, en tous les cas. On a vu tout plein de symbolisme dans le fait qu'au lit est accroché un petit balai, comme quoi c'était un rappel des tâches ménagères de madame. C'est peut-être un peu tiré les cheveux. Par contre, ce qui est très intéressant sur la conscience, le miroir, de nouveau, et sur la conscience du peintre, c'est évidemment l'écriture, la signature, Johannes van Eyck, fuit ik, c'est-à-dire Jean van Eyck fut ici, il se représente dans le miroir, et vous voyez le dos des deux personnages, et lui en bleu clair, au fond, donc il se représente de nouveau dans ce tableau, il est là comme témoin du mariage. Et donc, Jean van Eyck, en faisant cette peinture, attribue au peintre le même rôle que celui qu'on a vu dans les scènes religieuses. Le peintre est là et témoigne de la véracité de ce qu'on montre. Il est témoin de ce mariage. On me fait signe que je dois aller un peu plus vite. Je vais le faire. Voici maintenant un Saint-Éloi dans son échoppe. De nouveau, un réalisme fabuleux. Ici, Saint-Éloi n'est plus l'évêque. C'est vraiment l'orfèvre du coin, avec tout son magasin. Encore un miroir, il est en fait sur son nez, dans son magasin qui donne sur la rue, donc le miroir donne une vision de ce qui se passe dans la rue et de deux badauds qui passent devant sa boutique. Il a ouvert son échoppe, il a la visite d'un jeune couple qui va sans doute se marier et qui vient choisir une bague, il paie, le Saint-Éloi est en train de peser les fleurs. Et devant, vous avez la ceinture de mariée, donc pour laquelle le couple vient chercher sans doute un bijou. Vous voyez le rendu des pierres, des bagues, des matériaux. De nouveau, ici, il y a un réalisme extraordinaire. Alors, dans les sciences, je pouvais difficilement passer au-dessus de cette extraordinaire aquarelle de Durer, qui est d'un réalisme, d'une recherche. Oui, il y a vraiment une volonté de réalisme et de volonté de comprendre et de, de noter, de signifier la réalité des choses. Et dans des dessins comme celui-ci, mais vous connaissez aussi sans doute le dessin du lièvre de Molière, etc., de Durer, etc., il y a toujours cette recherche de volonté d'aller au-delà du réel, au plus près du réel pour aller au-delà même. Hein. Je vais aller un peu plus vite. Hein, le géographe d'Henri VIII. Évidemment, Vézal, je ne pouvais pas passer au-dessus. En parlant des grands noms de la Renaissance au nord des Alpes, il fallait évidemment Vézal. Vézal qui est quand même un des recherches anatomiques extraordinaires. Recherche anatomique qui avait commencé dès le XVe siècle, et comme en Italie, ici c'est une gravure du début du XVe siècle, par le recours à l'image de Saint Sébastien. Saint Sébastien a été, au début de la Renaissance, aussi bien en Italie que chez nous, le saint préféré. Pourquoi ? Parce qu'il permettait de peindre un nu, ou un presque nu. Et donc, il fallait parcourir à l'antique pour avoir un nu. On pouvait avoir un modèle presque nu avec Saint Sébastien. De nouveau, Adam et Ève de Durer, presque un siècle après. Mais aussi Durer qui va faire tout aussi, hein, qui va écrire également un traité de proportions sur les proportions humaines, hein, aussi bien que le célèbre Léonard de Vinci. Durer a écrit des traités de peinture et entre autres tout un traité sur les proportions. Jean Gossard, je reviens à lui, donc le retour de nouveau, mais ici on s'approche plus vers une image classique de la Renaissance, Vénus et Cupidon, dans un intérieur architecturé tout à fait défini ici, dominé cette fois-ci. Alors, aussi étonnant, c'est une fresque d'Altdorfer. Ici aussi, je vous parlais d'érotisme tout à l'heure, ben, il y a de l'érotisme, y compris dans la peinture au nord des Alpes, et j'en veux pour preuve cette petite scénette. Les Sciences, je ne pouvais pas non plus passer au-dessus de cet extraordinaire tableau d'Holbein représentant les ambassadeurs, donc l'ambassadeur d'Italie. Non, l'ambassadeur de France à la cour d'Angleterre et l'ambassadeur d'Angleterre à la tour de France en même temps. C'est une peinture qui a aussi fait couler énormément d'encre. Il y a d'abord cette maîtrise de la perspective avec cette anamorphose en bas, hein, ce crâne vu en. Il faut se mettre tout à fait à l'extrême du tableau pour voir le crâne dans sa réalité profonde. Il y a ces instruments de musique qui sont un rappel du côté éphémère des choses, comme le crâne. La musique étant l'art de l'éphémère par excellence. Et au-dessus, vous avez tous les instruments de science qui sont présents aussi. Donc, comme quoi, il y a aussi une hiérarchie. La science est plus stable, plus fiable que la musique, que les arts. De toute façon, tout est appelé à la mort. Donc, il y a toutes des réflexions sur ce tableau qui sont importantes. J'ai dit que la Renaissance est une période scientifique, mais c'est aussi une période pré-scientifique. Il faudra attendre quand même le 18e pour l'expérimentation, etc. Et la preuve, j'en veux pour preuve, ce cabinet d'un alchimiste peint par Stradanus, Johannes Stratensis, Flandrius, c'est un flamand, van der Straten, de son nom, qui s'est installé à la cour de Florence. Et M. van der Straten a eu la commande par les Médicis de tableaux portant sur l'alchimie, la science, etc., etc. Et donc, dans plusieurs palais de Florence, se trouvaient des œuvres de van der Straten autour de la science. Et là aussi, les Médicis viennent chercher un peintre, non pas italien, mais un peintre flamand. Alors, mais ça va être ma conclusion. J'aurais presque respecté mon temps. Voici un tableau de Ghirlandaio. Ghirlandaio, qui est un peintre italien, comme vous le savez. Fait, Ghirlandaio prend comme modèle une œuvre de Memling. C'est une copie par Ghirlandaio d'un tableau de Memling. Donc, c'est clair que au nord des Alpes, on a été influencé par l'Italie. Il est clair que l'Italie a aussi été influencée par le nord des Alpes. On l'oublie un peu trop souvent, on réduit trop souvent, me semble-t-il, la Renaissance égale Italie, égale redécouverte de l'Antiquité. Non, c'est vraiment un moment qui crée des choses, en se nourrissant de l'Antiquité telle qu'il la découvre, c'est évident, et en s'enrichissant de tout ce que l'Antiquité permet de remettre à l'ordre du jour. Mais elle se nourrit aussi d'inventions pures, de nouvelles inventions. J'en vois une ici dans ce Ghirlandaio. J'ai parlé tout à l'heure de Antonello de Messine, mais voici une Vierge d'Annonciation d'Antonello de Messine qui a été attribué pendant, jusqu'au début du XXe siècle à Van Eyck. Donc, tu dis, attends, ouais. Donc, qui a été attribué à Van Eyck et qui maintenant est reconnu comme étant d'Antonin de Messine. J'ai parlé, je n'ai pas encore parlé, mais je devrais parler du portique, du triptyque des Portinari, Portinari aussi, italien installé à Bruges, qui commente à Hugo van der Goes un tableau représentant la nativité et l'adoration des bergers. Et bon, voilà les donateurs, Portinari, Tommaso Portinari avec Saint Thomas derrière et sa femme. Si vous regardez bien le bijou que porte, le collier que porte Madame Portinari, vous allez trouver exactement le même dans ce portrait fait par Memling, comme quoi le réalisme est poussé jusque y compris dans des détails comme celui-ci. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer la, quand même l'influence des bergers de Hugo van der Goes qui sont derrière moi sur les bergers de Ghirlandaio qui sont dans le tableau à côté. On n'est pas à la même époque, on est dans une culture beaucoup plus renaissante. Les rois mages arrivent sous un arc de triomphe, etc., romain, etc. Il y a tout un autre langage, mais il y a des emprunts aussi qui sont faits au nord des Alpes. Je termine presque par cette flagellation de Peter de Kempenaer, qui l'a peint à Rome pour une église romaine, et en parallèle, je dirais, aux œuvres qui se faisaient à ce moment-là. Exactement, on a d'ailleurs, dans la perspective, dans la mise en espace, dans la lumière, etc., dans le rendu anatomique, on est dans la période classique de la Renaissance en Italie. On pourrait prendre ce tableau pour un tableau de Raphaël ou d'un autre. Idem avec, ici de nouveau, Martin van Heemskerk, dont on a vu l'autoportrait tout à l'heure devant le Colisée. Voici l'amour et Cupidon devant Vulcain qui est en train de forger les armes de Van Heemskerk, donc peint ce tableau-là. Et au XVIe siècle, dès le XVIe siècle, la fin du XVIe siècle, ce tableau-ci est attribué à Raphaël. Et il faudra attendre aussi le début du XXe siècle pour dire non, c'est pas Raphaël, c'est un peintre hollandais, Van Heemskerk, venant de Haarlem, qui s'est installé à Rome et qui a fait ce tableau. Donc, comme quoi la confusion a duré parfois. Je crois que j'ai presque terminé. Oui, évidemment, le sud, parlant de Raphaël, nous connaissions évidemment au nord des Alpes, on connaissait Raphaël, entre autres pour tous ses cartons de tapisserie, puisque Raphaël a dessiné les cartons de tapisserie à Rome, mais les a fait tisser à Bruxelles et à Alost. Donc il y a eu tout un trafic de dessins, d'estampes, et donc de sujets sont arrivés comme ceci. Et je voulais terminer quand même. Et là, ce n'est pas mon domaine, mais rappeler quand même que le plus grand, le meilleur apport à la culture et à la civilisation renaissante du nord des Alpes, ça a été la musique. Et donc, je termine avec une vision de Guillaume Dufailly et Gilles Binchois au début du XVe siècle. Mais là, ça dépasse mes compétences, malheureusement. Le plus grand des musiciens du XVIe siècle et de la Renaissance étant, comme vous le savez tous, Roland de Lassus, notre compatriote. Merci de votre écoute.
Je remercie Michel de Remacker et je vous invite immédiatement à intervenir ou à poser des questions. Moi, j'aurais alors une petite question par rapport à cette idée de perspective.
Oui.
J'ai aussi appris que ça venait de la Renaissance et quand je regarde les églises, je vois que souvent quand on descend les statues, c'est notamment le cas ici à Sainte-Vaudru, on voit qu'il y a une perspective qui a été faite, le haut du corps étant plus long et plus large, plus grand, pour qu'on le voit du dessous dans la bonne perspective. Et d'où vient, alors pour des œuvres bien plus anciennes, d'où vient ce type de perspective-là qu'on avait chez nous bien avant la Renaissance ?
Vraisemblablement d'une connaissance quand même de d'abord des métopes, etc., grecs, des temples grecs, le dessus des temples grecs joue aussi sur cet aspect de perspective inversée, vue d'en bas, de contre-plongée. Donc les artistes grecs, sculpteurs grecs ont commencé à prendre conscience de ça et ont modifié leur mesure à cause de ça. On sait aussi que les colonnes grecques hein, étaient un peu convexes pour pallier la déformation visuelle qui aurait eu lieu autrement. Donc cette optique, cette analyse de l'optique est connue depuis très longtemps. L'optique est sans doute une des sciences qui a été... Enfin, une des sciences... Une science qui a fait l'objet de beaucoup de recherches, très, 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 très. Et donc, je crois que c'est dû uniquement à ces recherches sur l'optique et les déformations dues à ça.
OK. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été prolongé? Il a fallu si longtemps, alors pour avoir la perspective, est-ce que tu aurais une explication?
Je n'ai pas d'explication de ça. Je me pose la question.